L'arrêt des traitements de Vincent Lambert peut désormais intervenir à tout moment. Une sédation profonde et continue doit être mise en place jusqu'au décès. C'est un accident de la route, il y a 10 ans, qui a rendu cet homme tétraplégique et a provoqué chez lui d'importantes liaisons cérébrales. Dans le vocabulaire médical, on dit qu'il est en état neurovégétatif. Une affaire douloureuse qui déchire sa famille. Il y a d'un côté ses parents qui veulent le maintenir en vie et de l'autre, sa femme qui dénonce un acharnement thérapeutique. Bonjour Valérie Depade.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en droit à l'université Paris 13. Les parents comptent déposer de nouveaux recours. Aujourd'hui, une ultime contre-attaque. Alors c'est encore flou, on n'a pas beaucoup de précision. Quels sont les recours possibles? Il y en a encore aujourd'hui?
Personnellement, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. C'est une décision médicale qui a été validée par le Conseil d'État, par la Cour européenne, puisqu'ils ont la Cour a rejeté le recours. Je pense que s'ils font un recours, ce sera avec un autre objet que de contester la décision médicale elle-même.
Eux, ils s'en réfèrent à l'ONU.
Puisque toutes les voies de recours françaises et européennes sont épuisées.
Eux, ils s'en réfèrent au Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU, qui est la seule entité à être allée dans leur sens.
Oui, mais que nous ne sommes pas tenus de suivre. Et visiblement, les choses ne vont pas dans le sens d'un suivi de la demande de ce comité.
Alors du coup, les parents en appellent même à Emmanuel Macron. Ils le supplient d'intervenir. Le président a un quelconque pouvoir dans ce dossier, dans ce genre de dossier?
Le président a beaucoup de pouvoir, mais est-ce qu'il a celui de contester une décision du Conseil d'État et de la Cour européenne? Je n'en suis pas sûre.
Alors s'il y a eu tous ces recours, c'est pourquoi? C'est par manque de clarté de la loi actuelle?
Non, je crois que l'affaire Lambert, c'est un cas particulier. C'est avant tout, du point de vue judiciaire, l'histoire d'un déchirement familial. Sur fond médiatique, ce qui a certainement compliqué les choses, y compris les conditions de vie actuelles de Vincent Lambert.
Donc il ne faut pas en faire un exemple quand on entend dire qu'il y a d'autres personnes dans ce cas en France?
Non.
C'est faux?
Non, ce n'est pas faux qu'il y a d'autres personnes dans ce cas. Ce qu'il ne faut surtout pas penser, c'est que toute personne dans un état de conscience altérée, végétatif, post-relationnel, va être déclarée du jour au lendemain en obstination déraisonnable. En tout cas, les soins lui étant apportés relevant de l'obstination déraisonnable. Ce n'est pas parce que Vincent Lambert est tétraplégique et en état de conscience altérée qu'on considère que les soins sont déraisonnables. C'est pour d'autres raisons. Alors bien sûr, une personne dans cet état est plus fragile qu'une autre et on a plus de risques de basculer dans l'obstination déraisonnable. Mais ce n'est pas le cas pour toute personne tétraplégique.
Que dit exactement la loi française? C'est quoi la règle en la matière?
La règle est que lorsque le médecin, au terme d'une procédure collégiale, qui est quand même une protection sérieuse, in fine, il prend seul la décision, mais il la prend après avoir suivi une procédure collégiale, étant en général quasiment toujours en accord avec les médecins et les membres qui ont participé à cette procédure. Donc, lorsque le médecin, à l'issue de cette procédure, décide que les soins relèvent de l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire qu'ils sont inutiles, disproportionnés et n'ont d'autre sens que le maintien de la vie, il peut décider d'y mettre fin, de les arrêter. En même temps, il va accompagner le patient en le plongeant dans le sommeil, en l'anesthésiant. C'est la sédation profonde et continue afin qu'il ne souffre pas.
Et donc l'obstination déraisonnable, ça vient du fait que les médecins estiment que Vincent Lambert n'ira jamais mieux?
Oui. Oui. Maintenant, ce qui s'est dit dans le cadre de cette procédure relève du secret médical. On ne le sait pas exactement. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas penser que c'est parce qu'il est dans cet état, enfin parce qu'il est post-relationnel, végétatif et en état de conscience altéré. Ce sont des éléments précis dont on ne dispose pas qui ont justifié la décision des médecins.
Il y a aussi tout un débat sur le fait de savoir si finalement Vincent Lambert est bien concerné par cette loi, Claes Leonetti, puisqu'il n'est pas en fin de vie. C'est aussi quelque chose qu'on entend régulièrement.
Non, mais la loi est une loi relative aux malades et aux personnes en fin de vie. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il faut établir un distinguo entre une personne handicapée à la suite d'un accident ou malade? Ça, c'est une autre question.
Parce que pour dire les choses très clairement, les traitements qu'il reçoit aujourd'hui ne sont pas des traitements pour soigner, je ne sais pas, un quelconque problème cardiaque et tout, qui pourrait le tuer. Non, c'est juste, on le nourrit et on l'hydrate, c'est ça?
Des traitements de base. Voilà. Il ne peut pas, il n'est pas suffisamment autonome pour le faire. Comme vous le dites, on le nourrit et on l'hydrate.
Ce cas illustre aussi le problème de la décision dans le cas de Vincent Lambert. Visiblement, il n'a pas laissé de consigne sur ce qu'il souhaitait qu'il advienne de lui dans un cas de figure comme celui-ci. S'il n'y a pas de directive anticipée, là, sortant du cas Vincent Lambert, qui décide ? Qui parle au nom de la personne ?
Alors, soit la personne a désigné ce qu'on appelle une personne de confiance, comme le terme l'indique, une personne à qui elle fait confiance pour discuter avec les médecins et pour porter sa parole. Non pas pour décider elle-même, mais pour dire ce qu'elle aurait voulu, à condition encore qu'elle lui ait dit. Et sinon, c'est le médecin. C'est ça. Si vous voulez, on entend évidemment le témoignage de l'épouse de Vincent Lambert. Le
problème, qui est sa tutrice légale.
Qui est sa tutrice légale. Mais en droit français, dans la loi Claeys-Leonetti, seules des directives anticipées peuvent véritablement valoir dans ces cas.
Mais vous dites qu'il faut désigner quelqu'un, mais ça se passe comment ? Est-ce que le dire à un proche suffit ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une trace écrite ? Qu'elle soit certifiée ? Ça marche comment ?
Alors, il faut l'écrire, sous n'importe quelle forme, le signer et que la personne le signe. C'est devenu, depuis la loi de 2016, en quelque sorte un contrat, en tout cas un accord. Il faut l'accord de la personne désignée.
Est-ce qu'on sait si beaucoup de Français l'ont fait ?
Pas beaucoup de Français l'ont fait. C'est difficile, puisqu'il n'y a pas de fichier. Il est difficile vraiment de répertorier le nombre, mais il semble qu'on soit beaucoup trop nombreux à le faire.
Cette affaire soulève
beaucoup trop peu nombreux.
Cette affaire Vincent Lambert soulève aussi de nombreuses questions éthiques. Une question très compliquée. Qu'est-ce qu'une vie indigne d'être vécue ? À partir de quand on estime qu'une vie est indigne ? Ça, c'est quelque chose de très personnel.
Oui, c'est très personnel et je ne poserai pas la question en termes de vie indigne. Je poserai la question en termes de conditions de vie qui ne sont que souffrance. Toute vie est digne d'être vécue. Pour moi, c'est pas ça la question. La question est de savoir à partir de quand la vie n'est que souffrance sans possibilité d'amélioration.
Mais comment on sait s'il souffre ou pas ? Puisqu'il ne communique pas.
C'est pour ça que c'est très délicat, c'est pour ça que les experts ne sont pas toujours d'accord. C'est une question terrible et je crois qu'il faut quand même comprendre. Alors, le problème, c'est celui, d'un point de vue juridique, de l'obstination déraisonnable. Est-ce qu'on est ou pas dans un cadre d'obstination déraisonnable ? Mais on n'aura jamais une définition légale de l'obstination déraisonnable.
C'est ce que j'allais vous demander. À partir de quand ça devient déraisonnable ?
L'ensemble des cas, enfin, qui va répondre à la complexité, à la singularité de chaque cas. La loi a ses limites. Elle définit l'obstination aujourd'hui, des soins inutiles, disproportionnés, qui n'ont d'autre effet que le maintien de la vie. Mais vous voyez bien qu'à travers cette définition, il peut y avoir des appréciations différentes.
L'euthanasie n'est pas légale en France, donc dans le cas de Vincent Lambert, on va arrêter les traitements. Ça veut dire quoi exactement ?
Ça veut dire qu'on va cesser de le nourrir et de l'hydrater artificiellement tout en le plongeant dans un sommeil. Lui aussi artificiel.
Certains dénoncent une forme d'hypocrisie en disant que ce serait bien plus simple finalement de légaliser une certaine forme d'euthanasie. Vous en pensez quoi ?
J'en pense que quand c'est possible, ça devrait être évidemment la décision de la personne, mais qu'effectivement ce sommeil est irréversible, on ne va pas le réveiller. Donc ce qu'il faut finalement souhaiter, c'est que ça ne dure pas trop. Alors, si on estime que Vincent Lambert sera absolument inconscient, évidemment, mais pour les proches, si ça doit durer des jours et des jours, c'est terrible. Donc effectivement, je ne vois pas bien la différence entre l'injection d'un produit létal, les mots font peur, les mots sont graves, mais qui va entraîner la mort rapidement, et une sédation profonde et continue, qui peut entraîner la mort rapidement, mais là, il faudrait qu'un médecin parle.
Merci beaucoup Valérie Depade.
Merci à vous.
Invitée du 5-7 ce matin, je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit à l'université Paris 13.